Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
D'une heure, hein, de 90 minutes info, vous venez d'entendre un extrait de ce qu'a dit Vladimir Poutine tout à l'heure. Vladimir Poutine qui a prononcé un discours de près d'une heure pour entériner l'annexion de 4 régions du sud et de l'est de l'Ukraine. Une allocution en forme de violente diatribe contre l'Occident et les États-Unis en particulier. Les USA qui l'accusent de vouloir faire de la Russie une colonie, ce sont ses mots. L'Occident, dit-il, est prêt à tout pour préserver le système néocolonial qui lui permet de parasiter et en réalité, a-t-il plus loin de piller le monde entier. On l'aura compris, il est allé un petit peu plus loin que d'habitude dans cette diatribe anti-occidentale. Harold Diman est avec nous aujourd'hui. Bonjour Harold. À vos côtés, Céline Pina. Bonjour. Bienvenue à vous. Je rappelle que vous êtes essayiste. Jean-Michel Fauvert qui a été patron du RAID. Et Pierre Lelouch qui est à nouveau avec nous en cette fin de semaine. Ancien ministre, ancien député et fin connaisseur aussi de ce dossier. Harold, je le disais à l'instant, est-ce que de mémoire de commentateur, c'est son plus dur discours, lui qui aime évidemment mettre de l'huile sur le feu et qui allume le feu depuis, allez on va dire, 2008 déjà, hein, sur toutes ces questions. Est-ce que c'est son plus dur discours aujourd'hui à l'adresse des États-Unis?
Alors son porte-parole, Peskov, avait dit que ce serait un discours volumineux. Et c'est en cela que c'est le plus dur. Car tout ce qu'il a dit, il l'a déjà dit, mais il n'a jamais dit tout cela dans un...
En même temps.
Et... il n'a jamais développé une dialectique aussi totale sur l'espèce de mal absolu qu'est l'Occident. C'est presque l'inverse de Ronald Reagan qui appelait l'Union soviétique l'empire du mal. C'est l'Occident qui est devenu l'empire du mal. Et à tous les étages, et à tous les stades, et sous toutes les couleurs. Donc, on peut dire que c'est son plus violent diatribe.
Et puis, Pierre Lelouch... moi, ce qui m'a frappé aussi, on va revenir à tout ce qu'il a dit à propos des États-Unis et de leurs vassaux, parce qu'au fond, les Européens ne seraient que les tristes cires de cette mascarade américaine, hein, selon lui, en tout cas de cette volonté des États-Unis d'asseoir leur pouvoir sur le reste du monde. Ce qui m'a frappé aussi, c'est ce discours teinté de nostalgie d'une URSS démembrée. Il dit « ils ont détruit notre grand pays, la fameuse Grande Russie », même s'il le concède. On peut évidemment pas, en l'état actuel des choses, revenir au passé. Mais cette date charnière de 1991, et dont on sait qu'elle est importante pour lui, lui qui... a connu la Grande Russie et l'URSS en particulier, cette date, elle est revenue à plusieurs reprises. Ça, c'est très riche d'enseignements.
Oui, mais comme a dit Harold, c'est la mise en perspective de ce qu'il dit depuis très longtemps, en fait. Hein. Ça fait longtemps qu'il a dit que la dissolution de l'Union soviétique était la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Moi, je l'avais rencontré à ce moment-là dans un voyage avec Chirac. Ça fait très longtemps, en 90. À Saint-Pétersbourg, il était l'adjoint de Sobchak au moment de la...
Le maire de Saint-Pétersbourg.
Oui, le maire de Saint-Pétersbourg. C'était complètement inexistant derrière lui. C'était le conseiller aux affaires internationales de Sobchak. Et ensuite, il a été aspiré à Moscou. Et alors, ce qu'il dit, c'est que, en fait, il accuse de trahison les dirigeants de l'Union soviétique qui, en décembre 91, dans cette fameuse datcha de la forêt en Biélorussie, ont signé l'acte de séparation, de divorce, entre la Biélorussie, l'Ukraine et la Russie. C'est là que vient le mal. Cette dissolution, elle s'est faite sans l'accord du peuple russe, dit-il aujourd'hui. Et ensuite, les Américains se sont servis de cela pour ensuite créer un coup d'État en Ukraine, séparer l'Ukraine de la Russie. Et c'est ça l'origine de la guerre, dont il met entièrement la responsabilité dans les mains des Américains. Et puis après, il y a cette... dénonciation. C'est très intéressant parce que du ton des communistes, quand un dirigeant communiste, Brejnev ou autre, ou Khrouchtchev, faisait un grand discours contre l'Occident, il y avait derrière le communisme qui était l'anti-modèle. C'est-à-dire que derrière, il y avait une idéologie qui était censée remplacer le modèle occidental. Là, non. La Russie étant devenue capitaliste, il dit quoi? Il dit « c'est la fin de l'hégémonie occidentale ». Donc, il se présente en fait comme le patron du monde non aligné. Enfin, il essaye, hein, parce qu'il y a plus gros que lui. Il y a l'Inde, il y a la Chine, surtout. Mais il est en train de dire, le prochain monde, c'est le monde capitaliste, il ne met pas en cause, mais c'est anti-occidental. Vous êtes cuit, vous êtes mort, y compris dans vos valeurs qui sont sataniques. Alors là, c'est le parent 1, parent 2, la famille, le wokisme, l'immigration qui est causée par les Américains et qui va détruire l'Europe. Tout ça est mis dans une espèce de grande divagation en forme de mobilisation du peuple russe qui est attaqué pour sa survie. C'est ça son message à la Russie. Message aux Américains, on veut bien négocier, mais sur la base de ce qu'on a conquis.
Absolument. Et il le dit, Kiev peut venir à la table des négociations, mais on ne reviendra pas sur ce choix qui a été entériné, cette souveraineté qui a été décidée par
des millions. C'est presque annexe dans le discours.
Absolument. Justement, Céline Pina, sur le plan philosophique, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un discours en forme de nouveau choc des civilisations ou du retour des deux blocs, mais recomposés, c'est-à-dire des blocs Est-Ouest recomposés différemment, puisque maintenant, le monde est plus bipolaire tel qu'on l'a connu, mais avec des alliances effectivement de pays émergents qui sont tout autres.
En fait, c'est le retour d'une forme de storytelling dans laquelle tout le monde a sa place. Vous avez parfois des récits qui sont des récits nationaux. Là, il sort très clairement du récit national pour donner une vision du monde dans laquelle il répartit les bons et les mauvais points et qui s'appuie sur... Il a la finesse de connaître quand même la fragilité aujourd'hui des civilisations occidentales. Et donc, il tape vraiment là où ça fait mal. Donc, le but du jeu, c'est finalement à la fois d'adresser un message à sa population et de la faire adhérer à sa vision en disant « Mais en fait, à part moi, vous n'avez pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre solution puisque le reste, c'est cette forme de décadence occidentale qui fait que vous ne serez plus des hommes, des vrais. Vous serez envahis par des logiques qui ne sont pas les vôtres. Oui. Vous ne pourrez pas garder ni vos traditions ni votre culture. » Donc en fait, il se présente presque comme un garant d'une forme de civilisation russe que lui incarnerait et contre lequel l'Occident serait... peut-être pas forcément frontalement l'ennemi, mais en tout cas risquerait d'apporter des ferments comme une maladie contagieuse, en fait. Mmh. Et donc, il dit, regroupez-vous derrière moi, je vous protégerai de ces gens-là qui ne vous apporteront rien. C'est extrêmement violent, parce que derrière, quand vous expliquez que l'autre est comme une maladie contagieuse, ben vous pouvez justifier des actions extrêmement violentes. Et on sait qu'on a tous en tête les paroles qu'il a prononcées sur l'utilisation de l'arme nucléaire.
Disons qu'il ne bluffait pas. Et jusqu'ici, il a toujours plus ou moins fait ce qu'il a proféré quand même. Une phrase qui nous a frappé aussi, il est revenu à son antienne de l'OTAN. L'OTAN qui s'étend à l'Est, hein, l'ère Rudis, c'était un petit peu le nœud du problème dès le départ pour justifier l'invasion de l'Ukraine. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter, Jean-Michel Fauvergue ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter maintenant qu'il y a eu cette annexion de la nouvelle donne qu'il est en train d'instaurer ? Je m'explique. En 10 ans, ces 4 républiques régions séparatistes qui sont maintenant rattachées à la Fédération de Russie, si jamais l'Ukraine persiste à vouloir les combattre avec le soutien, avec le concours militaire, et on sait que les États-Unis vont mettre encore de l'argent sur la table, persiste à vouloir libérer maintenant ces républiques qui ont été intégrées à la Russie, ça sera une violation de notre intégrité territoriale, donc ça justifiera une guerre tout autre. Alors, c'est ça la logique qui préside à
élection. C'est sa logique en faisant les référendums et en reconnaissant les résultats de ces référendums. Bien évidemment, c'est une des logiques de ça. Vous attaquez la Russie et à ce moment-là, toutes les possibilités sont sur la table si vous attaquez la Russie. Mais vous me demandez s'il faut s'en inquiéter. Mais bien sûr qu'il faut s'en inquiéter, mais il fallait s'en inquiéter aussi. Auparavant, puisque c'est le discours d'aujourd'hui, tout le monde se plaît à reconnaître et avec raison qu'il contient toutes les menaces que Poutine développait depuis plusieurs années d'ores et déjà. Moi, je pense que ce discours est quand même un discours. C'est un discours, hein, ça reste un discours, mais c'est un discours fondateur pour plusieurs raisons. D'abord parce que il acte les victoires sur le terrain, on va le dire comme ça. Enfin, en tout cas, les annexions sur le terrain, il les acte de la manière que vous avez décrite. Il acte aussi le fait qu'il va se désancrer. La Russie se détache du bloc européen et se détache du bloc occidental avec lequel ils avaient des relations auparavant, quand même, hein, il faut le rappeler. Et effectivement, il acte aussi le fait qu'il y aura plusieurs blocs. Je pense qu'il pense à deux blocs, puisqu'il a cité l'Occident et les autres. En fait, il y aura le monde à venir est un monde, enfin le monde actuel même d'ailleurs, est un monde fait de plusieurs blocs. Ça, il le dit et il le répète. Son discours est un discours de menace, certes, mais sur le terrain, la situation, elle n'est pas prête de changer. Parce qu'effectivement, comme disaient Pierre Lellouche et Harold, ils demandent à négocier sur la base de ce qu'il a acquis aujourd'hui. Donc c'est pas une négociation.
C'est unilatéral.
Tout bon négociateur vous dira que c'est pas une base de négociation raisonnable.
En tout cas, c'est un bras de fer qui s'engage. Harold, il y aura une escalade de facto parce que vous disiez il va pas plier, mais les États-Unis non plus. On rappelle quand même l'aide américaine. 16 milliards jusqu'ici, 16 milliards de dollars hein, en soutien aux Ukrainiens. Sachant que le référendum avait été acté et connaissant déjà les résultats, Biden a dit, enfin le département de la défense américain a dit, on va injecter 1 milliard de plus, notamment je crois pour des brouilleurs de drones, des systèmes de brouillage de drones. Oui, mais... Donc est-ce qu'on va vers une guerre sûre là maintenant pour libérer cette partie de l'Ukraine?
Je ne veux pas prendre la parole.
Non mais allez-y alors, si vous voulez bien.
Bon, les Américains ils en sont aujourd'hui à 65 milliards au total. Il faut savoir que l'Ukraine a besoin de 5 milliards de dollars par mois pour payer les soldats et payer les pensions. Que l'Europe apporte un peu d'argent, mais le gros de l'argent économique, c'est américain. L'aide militaire, elle est massivement américaine, autour de 16 milliards, plus 1. Mais alors, dans le plus 1, ce qui a été annoncé hier, il y avait deux choses très intéressantes. L'une, c'est que ce qui fait le plus mal, c'est-à-dire les HIMARS, les lance-missiles longue portée 80 km, ils disent, on va en livrer 18 de plus, mais dans plusieurs années. On ne les prend plus sur les stocks de l'armée américaine. Ils vont être directement livrés par Lockheed Martin. Mais pour fabriquer ce genre d'engin, il faut plusieurs années. Donc, autrement dit, c'est un signal aux Russes sur le thème « j'escalade pas les offensives sur Kherson ». Moi, c'est ce que je retiens. Et je trouve que, honnêtement, dans la période où on est à la tension extrême, c'est un signal important. Les Américains disent « on reste avec les Ukrainiens ».
Mais on
s'engage sur la plusieurs années.
Attendez,
ils ont même annoncé hier, le Pentagone a annoncé hier, je pense qu'Harold a dû voir ça aussi, la création d'un commandement spécial à Wiesbaden, en Allemagne, pour piloter l'entraînement et la livraison de matériel dans la durée. Okay ? Donc, on reste dans la durée avec l'Ukraine. Message. Autrement dit, ce que vous vouliez, c'est-à-dire la coupure avec l'Ukraine, c'est raté. Mais je ne monte pas la pression sur le terrain. En attendant l'hiver, ce qui est très important. Quant à l'autre, Poutine, il dit « je défendrai par tous les moyens », mais il n'est pas parti dans une diatribe nucléaire. Donc, on est au début d'une phase, en tout cas je l'espère, où chacun est tout en haut du cocotier. Les uns disent « votre annexion, je ne la reconnaîtrai jamais ». Biden dit ça, Londres dit ça. Les Français, pas encore entendu, mais sans doute qu'ils diront la même chose. On ne reconnaîtront pas les annexions. Le Russe dit « je ne bougerai pas de ces annexions ». Mais au milieu de ça, quand même, on ne va pas monter aux extrêmes tout de suite.
D'accord.
Cela dit, dans ce jeu de monter sur le cocotier, les positions sont tellement extrêmes. Et en effet, maintenant qu'on parle de guerre civilisationnelle des deux côtés, d'ailleurs, côté russe, mais aussi. Mais si vous entendez les Polonais, les Lituaniens, les Finlandais, c'est toute la Russie qui est malade. D'ailleurs, on ferme la frontière à tous les Russes, y compris les déserteurs. Les déserteurs ne peuvent même plus rentrer en Finlande, ce qui est quand même assez étonnant dans la logique politique. Mais peu importe.
Donc vous avez cette... Pardon ? Ça peut être la peur de la cinquième colonne, tout simplement, qui fait que...
Et des infiltrations.
Franchement, on en est à interdire. La coupure, elle est... Honnêtement, des deux
D'accord.
côtés.
Mais Pierre, et Harold, puisque du coup, on lui a coupé un peu la parole tout à l'heure. Parlons concrètement. Si demain, il y a une recrudescence des combats dans ces régions qui sont désormais annexées par la Russie, est-ce qu'on se dirige vers une autre guerre plus nourrie, plus puissante, avec peut-être la mise à exécution des menaces proférées jusqu'ici? Même si on est d'accord, il n'a pas prononcé le terme de nucléaire aujourd'hui.
On parle de frontières, en fait, parce que ce n'est pas...
Poutine qui l'a dit, mais un peu plus bas dans la hiérarchie, ils ont dit on aura le temps de fixer la frontière très exactement de ces quatre régions. Donc, comme je disais au début, ils n'ont pas eu Odessa, l'armée russe, et ils n'ont pas toutes les régions qu'ils viennent de proclamer comme faisant partie de la Russie. Et de manière signalée, ils n'ont pas obtenu Zaporizhia, la capitale de l'oblast de Zaporizhia, 700 000 habitants, ils ne l'ont pas. Ça n'est jamais passé sous la Russie. Donc c'est fictif même sur le plan géographique. Donc il y aura de la modulation. Voilà. Et la manière de moduler, ce sera un indicateur de la volonté d'arrêter les combats. Surtout parce que la victoire des armes n'est plus à la portée, sauf à sortir des armes.
Ce n'est pas immédiat. Il faudra du temps pour former les réserves, du temps pour reconstituer les stocks. Donc on est dans une période, en fait, norme, j'espère, de pause, puisque l'hiver va venir.
Oui.
Les avions, les drones, tout ça, ça vole moins au milieu de la neige. Mais sous-jacent, ce qu'il y a eu juste avant ce discours, c'est-à-dire l'opération sur les gazoducs, est quand même un avertissement majeur adressé à l'Occident. Bien sûr que les Russes disent que c'est les Américains, mais bon, à qui profite le crime? Le crime, c'est toutes vos installations sont vulnérables. Tous vos câbles Internet, tous vos systèmes de communication, de gaz, d'énergie sont vulnérables. Et penser que si la guerre démarre, redémarre, elle sera limitée à des histoires de territoires ou de villages autour de Zaporizhia, je crois que le message a été envoyé que ça peut être le début de quelque chose de bien plus grave.
Céline Pina, parlons de négociations. Il dit, j'appelle Kiev à la table des négociations, mais sur la base de cette recomposition régionale qu'on a décidée avec ce référendum unilatéralement décidé et donc ce vote massif en faveur de la Russie. Est-ce que l'Ouest aussi, d'une certaine manière, attise le feu dans ses déclarations passées, dans ses propos récents? Est-ce que ça va être difficile, après avoir traité Vladimir Poutine de sanguinaire, de terroriste, de dictateur parfois, de revenir à la table des négociations et de se poser réellement avec lui?
C'est toujours compliqué de revenir à une table de négociation quand on s'est insulté. Mais on sait aussi le dépasser, on sait aussi que la passion de la guerre peut amener ça. Donc quand vous voulez vraiment obtenir un résultat, vous arrivez à installer autour d'une table des gens qui se détestent. Le but du jeu, ce n'est pas de les faire partir en vacances. De toute façon, c'est de les départager et de trouver une frontière. Donc c'est tout à fait jouable. La question, c'est est-ce que l'ennemi le plus menaçant a atteint ses buts de guerre? Donc la question, c'est est-ce que Vladimir Poutine, parce que l'autre inconnu que l'on a, c'est qu'on connaît mal son entourage. Et par exemple, il y a beaucoup d'observateurs qui disent, mais attention, Vladimir Poutine n'est peut-être pas le pire. Et il serait peut-être à Moscou entouré de faucons encore plus violents. Donc la question, c'est est-ce que pour Vladimir Poutine, il est tout à fait possible d'en rester à ce qui a été obtenu, de faire une pause pendant un certain temps, pour beaucoup de raisons. D'abord parce que ça peut permettre de créer des dissensions entre les alliés. Ensuite, parce que ça peut permettre aux opinions publiques qui, si elles affrontent un hiver rigoureux, peuvent se retrouver beaucoup moins promptes à soutenir l'effort en faveur de l'Ukraine. Il peut penser que gagner du temps peut servir sa mauvaise cause.
Oui.
En tout cas, elle entérine ses possessions territoriales et lui a tout à gagner parce qu'on voit aussi une armée russe à la peine, une armée russe fatiguée, une armée qui paraît manquer de matériel et de munitions. Et la pause permet à chacun aussi de récupérer les stocks et de refaire l'intendance. Et pour lui, étant donné que les territoires qu'il a annexés sont reliés à la Russie, il peut à ce moment sécuriser ses apports de matériel, ses apports de nourriture et finalement...
Donc ça lui profiterait à lui en premier lieu, enfin en tout cas à la Russie en première intention. Jean-Michel Fauvergue, est-ce qu'on a affaire aujourd'hui à un homme esseulé ou peut-être encouragé par d'autres qui sont encore plus va-t-en-guerre ou en tout cas, expansionnistes
que lui.
Parce qu'on a beaucoup dit aussi, peut-être que ses généraux finiront par se retourner contre lui. Est-ce que c'est un peu une sorte de vœu pieux
La problématique, c'est qu'au sein de son camp, on ne sait pas trop ce qui se passe et on a peu de renseignements. En tout cas, les gens que nous sommes, en tout cas, avons peu de renseignements dans ce domaine-là. Les services de renseignement, peut-être un peu plus, quoique. On ne sait pas exactement Vladimir Poutine, il faut le garder comme interlocuteur, ou s'il disparaissait, ça serait pas pire avec d'autres interlocuteurs. Donc c'est toujours un danger. Et vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on peut se remettre à la table des négociations? Est-ce que c'est pas difficile de négocier avec quelqu'un qu'on a insulté, qu'on a tenter de ridiculiser en tout cas. Je pense qu'il y a des canaux de liaison qui n'ont pas été rompus. Les services de renseignement, les services spéciaux ont des canaux pour se rencontrer et travailler là-dessus. Et puis vous avez aussi des chefs d'État qui tentent aussi de garder le contact. Je pense à Macron, je pense à d'autres, au président Macron, je pense à d'autres chefs d'État aussi. Il est important de garder le contact pour ce qui va se passer après. On peut quand même honnêtement se poser la question de savoir si c'est la fin du commencement ou le commencement de la fin avec ce discours-là. C'est-à-dire, est-ce que la situation telle qu'elle est écrite aujourd'hui et décrite par Poutine est une situation qui, globalement, si demain on négociait là-dessus et s'il gardait ses possessions, est-ce que c'est une situation qui lui conviendrait ou est-ce qu'il a d'autres ambitions? Je rappelle en creux dans ce discours-là que... En réalité, on est loin de ce que l'on craignait au départ, c'est-à-dire la prise totale de l'Ukraine et peut-être le conflit avec les États baltes en particulier. Ouais. Donc le creux de ce discours nous dit que voilà, j'ai conquis des territoires que je revendiquais. Est-ce que je m'arrête là? Est-ce que je ne m'arrête pas là? Comment faut-il faire, etc.
Pierre, si demain... l'Occident, enfin l'Ukraine pliée, disait bon, ok, on renonce à cette partie-là, c'est annexé, et ne faisait rien pour le récupérer, ce serait la fin de cette guerre, ce serait la fin de ce conflit? Ou pas forcément?
La réponse est oui, mais dans les conditions actuelles, c'est inacceptable pour Zelensky. Tout le discours de Zelensky, c'est donner aidez-moi à aller jusqu'au bout de la victoire. Et ce discours, depuis le début, toute la question, c'est quels sont les buts de guerre. Il faut quand même rappeler que cette guerre, à son origine, et c'est une affaire qui n'a pas commencé au mois de février, il y a 30 ans, l'indépendance de l'Ukraine. Où va l'Ukraine? C'est un pont entre l'Est et l'Ouest, ou bien ça appartient à l'Occident, ou bien ça appartient à la Russie, ou bien c'est neutre. Ça, c'est la question non résolue depuis le début. Et puis, il y a, à l'Est de l'Ukraine, c'est ce qu'il disait dans son discours, la population que Catherine II a implantée. Marioupol avec une ville grecque, Odessa, les Russes qui étaient dans les mines... Et donc, depuis le début, le pays, il est en fait divisé.
Là, culturellement, linguistiquement,
il l'a unifié. Parce que c'est compliqué de dire aux gens que vous venez les libérer du nazisme quand vous bombardez leur appartement et qu'en plus, vous vous livrez à des exactions dans les rues. Donc, grâce à Poutine, il a fabriqué une nation ukrainienne. C'est assez paradoxal. C'est pour ça que Poutine, il a largement perdu sur toute la ligne. Il veut sortir des Américains d'Europe. Il a raté, ils sont de retour. Il ne voulait pas élargir l'OTAN, deux nouveaux membres sont rentrés. Il voulait couper l'Ukraine de l'Occident. Ben, l'Ukraine, elle est complètement dans les mains de l'OTAN et de von der Leyen, moins cette partie Est. Donc, sa position de repli, son plan B, c'est la seule chose qu'il a. C'est je garde le bout qui s'était révolté après 2014. En partie vrai, en partie manipulé par les Russes. Donc j'essaye de conserver cela. Si Zelensky l'achète, ça s'arrête. Si Zelensky ne l'achète pas, ben la guerre va durer. Les Américains vont installer un commandement, l'aide militaire va continuer. La question, c'est est-ce que ça devient, comme en Géorgie, un conflit larvé et c'est dans des conditions à peu près acceptables, ou bien ça explose? Vu le nationalisme qu'il y a chez Zelensky et en Ukraine, et la volonté de revanche, après les exactions russes, c'est compliqué. Il va falloir que les Occidentaux et les Ukrainiens se mettent d'accord sur les voies et moyens. Quant à est-ce qu'on peut vraiment obtenir le retrait de la Russie, de ce territoire et de la Crimée, revendiquée aussi par l'Ukraine, juste titre d'ailleurs. La Crimée, il n'y a pas de raison qu'elle soit d'un autre niveau que ces territoires également conquis, avec référendum et annexé à la Russie. Est-ce que les Russes peuvent accepter de les rendre? Non. Est-ce que les autres peuvent les récupérer sans une aide massive américaine et occidentale? Non.
Oui.
Donc il faut savoir que si La voie de la morale, c'est on ne cède pas au chantage de Poutine, on reprend, on va jusqu'au bout, on reconquiert les territoires. Ça veut dire.
Céline Pinard veut réagir à ce que vous dites sur cette reconquête des territoires.
C'est intéressant parce qu'en fait, effectivement, le seul problème, c'est que la morale en politique, c'est beaucoup utilisé, mais c'est rarement là-dessus que se font finalement les arbitrages. La question, c'est que si vous avez un hiver difficile, si toutes ces questions énergétiques, nous non plus, on n'est pas en mesure de les résoudre, on est sous totale dépendance des fournisseurs extérieurs, il y a un moment où la question du soutien absolu à l'Ukraine, parce que l'Ukraine a été injustement attaquée, ne fonctionnera plus. Ça, ce sont des choses qui fonctionnent sur l'émotion. Dans la durée, c'est souvent un petit peu compliqué. Donc, vous pouvez avoir des opinions publiques qui décrochent et qui, à un moment donné, disent « bon, bah, écoutez... Voilà, la Russie a annexé certains territoires et on sent aujourd'hui que les opinions publiques, elles n'ont pas forcément épousé. Elles aiment bien l'Ukraine tant que ça ne leur pèse pas tellement sur le quotidien. Mais c'est maintenant qu'on va voir ce que
ça va donner. Si ça s'enlise dans une vraie crise énergétique.
Oui, crise énergétique, crise alimentaire et économique. Et on voit par ailleurs, si la Chine est très prudente, en revanche l'Afrique, elle... est très ambigu vis-à-vis de Vladimir Poutine et semble se tourner aussi ses intérêts. Donc ouais. On voit qu'il y a des recompositions un petit peu partout qui ne facilitent pas forcément, j'allais dire, une adhésion morale totale à la victoire de l'Ukraine, dans la mesure où je pense qu'on va plutôt chercher des équilibres en se disant, bon ben, on peut, ce qui serait dangereux, puisque finalement la Crimée nous a montré comment Vladimir Poutine utiliser les territoires qu'on lui laissait pour construire ces guerres.
Harold Iman, il l'a dit à un moment, les non-alignés sont avec lui, sont avec nous. Hein, qui sont ces pays, qui sont ces réels soutiens aujourd'hui? L'Inde, on voit qu'elle y va quand même à tâtons dans cette histoire. La Chine, pareil, est très mesurée, fait très attention. Bon, l'Iran est un soutien un peu plus affirmé. Il y a des pays africains, effectivement, qui disent, nous, on n'a aucun problème avec cette recomposition sur le plan mondial. Mais sur qui peut-il vraiment compter, à la fois pour commercer et peut-être pour aller vers un conflit qui s'enlise?
Alors, pour ce qui concerne la guerre qu'il pourrait mener, son seul petit allié, c'est la Biélorussie, qui a jusqu'à présent évité d'envoyer un seul soldat de l'autre côté de la frontière. Loukachenko a laissé l'armée russe opérer sur son territoire et lancer l'attaque sur Kiev, mais a dit plusieurs fois « j'interviendrai si on attaque la Russie ». Mais bon, on n'a pas attaqué la Russie.
La Biélorussie, c'est pratiquement l'État satellite de la Fédération de Russie aujourd'hui.
C'est le seul qui viendrait les armes à la main au secours de Vladimir Poutine. Le Kazakhstan a montré qu'il ne voulait pas jouer ce jeu-là. Il n'y a pas vraiment d'autres États qui viendraient aider militairement. La Chine, elle a fait un cadeau à Vladimir Poutine en signifiant qu'il n'y avait rien à craindre en Extrême-Orient, sur la frontière avec Vladivostok, et tous les soldats de la garnison de Oussourisk, qu'elle s'appelle, sont partis sur le Donbass. C'est pour ça qu'on voit autant de têtes asiatiques, comme le ministre de la Défense, d'ailleurs, qui vient du Touva, ce sont des tribus mandchoues ou autres un peu assimilées, qui sont allées là-bas. Donc ça, c'est une aide. Mais maintenant, il est prisonnier, Vladimir Poutine, de cette collaboration un peu passive chinoise. Et sinon, il n'y a pas de troupes. Le Hezbollah ne va pas débarquer, l'Afrique du Sud ne va pas arriver pour l'aider. Maintenant, pour le commerce, c'est différent. Tous ces pays-là sont complètement ouverts au commerce avec.
C'est ça, il ne sera jamais bloqué dans son entreprise. Jean-Michel Fauvert, petite réaction.
Alors, au niveau du partage du monde, on n'est plus dans l'époque où il y avait ce gros bloc communiste et cette idéologie communiste qui irriguait un ensemble de pays, en particulier des pays qui se disaient non alignés. On a vu en particulier les pays qui étaient issus de la conférence de Bandung. On n'est plus dans ce bloc-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas derrière une idéologie. On a vu que Poutine ne répand pas derrière une idéologie qui servirait de contre-idéologie à l'esprit libéraliste, libéral en tout cas, parce que la seule chose qu'il a introduite, c'est la haine de l'Occident, avec la haine des nouvelles valeurs de l'Occident, etc. Il repose en fait son combat sur la haine de l'autre. en réalité.
Mais pas sur un socle commun.
Mais pas sur un socle commun. Donc ce qui fait que les alliés, ou les pseudo-alliés, comme l'Inde, la Chine, le Brésil, les pays africains, vont aller au plus offrant pour leur commerce et pour leur survie. En réalité, on n'est pas dans de l'idéologie, on est dans de la survie commerciale, économique, pour des pays qui en ont besoin.
Pierre Lelouch, sur la guerre économique qui se profile, les États-Unis, à qui tout cela, au fond, profite, il l'a bien rappelé d'ailleurs, les États européens sont les vassaux, ont été pillés par les États-Unis, enfin je veux dire, de son point de vue, seuls les États-Unis tirent leur épingle du jeu. C'est presque un appel, d'une certaine manière, aux États européens à dire, mais sortez de cette espèce de...
Des trucs qui m'ont fait sourire.
De cette espèce d'état de vassal, enfin de servitude dans lequel vous vous êtes plongé volontairement, quoi.
Oui, absolument. Il y avait des choses qui m'ont fait sourire dans ce discours quand il parle de monde multipolaire. La fin du monde unipolaire américain. On croirait entendre du Villepin à la grande époque, quoi. C'est le discours classique du Quai d'Orsay sur le monde depuis.
On est revenu 15 ans en arrière.
C'est un peu cocasse, quoi. Il porte un porte-parole du monde multipolaire façon à la russe. Mais bon. Il y a cette critique dévastatrice d'Américains du style « c'est eux qui ont utilisé la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki, c'est eux qui ont détruit les villes allemandes ». Il faut quand même se rappeler ce que faisait l'armée rouge à Berlin, mais ils ont détruit les villes allemandes.
Le Napalm au Vietnam, enfin, il nous a refait toute l'histoire du XXe.
La guerre du Vietnam, la guerre de Corée. Bon, tout ça est assez drôle. Naturellement, il nous a accusé d'être décolonialistes depuis la Renaissance, en oubliant que la Russie avait un tout petit peu colonisé la moitié du Caucase, qu'elle voulait aller jusqu'en Inde, qu'elle était à Shanghai, qu'elle avait fait la guerre au Japon. Tout ça est passé à la trappe. Disons que cette lecture historique de Poutine est par moments assez cocasse. Mais objectivement maintenant, sur le plan économique, qui sont les gagnants et les perdants 7 mois après le début? Je vais vous dire, c'est très simple. Il y a 2 gagnants, les Chinois, qui eux sont devenus maintenant... le leader avec la Russie comme junior partner dans cette alliance des pays anti-américains. Voilà, donc les Russes sont demandeurs. Et les Chinois ne leur donnent pas l'aide militaire. Ils leur règlent des problèmes économiques. J'espère pour eux des microprocesseurs, mais en tout cas, militairement, rien. Quant à l'autre gagnant, c'est les Américains, bien sûr. Car les Américains, dans cette affaire, ils vont vendre du gaz au lieu du gaz russe. Ils vont vendre des centaines de milliards d'armements. Les 100 milliards allemands de réarmement allemand, ils sont essentiellement destinés à acheter chez Lockheed Martin des F-35, puis des avions de surveillance maritime, puis des hélicoptères de combat. La moitié des 100 milliards, elle est déjà pas un programme avec la France. Hein. Tout est acheté aux États-Unis. Oui. Donc les Américains vendent des armes, vendent du gaz, retournent sur un leadership absolu en Europe, sont maintenant devenus une sorte de membre officieux de l'Union européenne parce que le centre de gravité est passé vers la Pologne et les États baltes qui répercutent tout le langage de Washington. L'influence française et allemande est drôlement descendue à l'intérieur de l'UE. Donc, les Américains sont les grands gagnants de l'opération jusqu'à présent.
Alors, si vous nous rejoignez, il est 16h passées d'une minute. Vladimir Poutine a donc entériné l'annexion de 4 régions du sud et de l'est de l'Ukraine avec la signature ces annexions de traités de rattachement à la Fédération. D'ailleurs, on va regarder cette séquence parce que là aussi, quand même, on s'attache toujours aux images lorsque cet homme prend la parole. En termes de scénographie, il y avait quelque chose d'intéressant, évidemment, observé, c'est que lui était à une table pour signer les décrets d'annexion, et puis il faisait passer le document aux 4 gouverneurs des régions concernées pour les signer à leur tour, mais toujours avec cette distanciation dont il a le secret. On se souvient évidemment de la rencontre avec Macron, où je crois qu'ils étaient à une dizaine de mètres d'écart avec cette table qui était interminable au fond. Harold Diman, là aussi, c'est riche d'enseignements. C'est je suis le patron, et d'une certaine manière, vous aussi, vous êtes un peu mais un féodé, mais regardez, pas la même table.
La disproportion. Bon, là, ils se mettent ensemble. Là, ça un peu
rachète. Pour la photo de famille, effectivement.
Ça rachète. Mais les 4 autres, il y en a 2 qui ont été pratiquement nommés par le FSB, Lugansk et Donetsk, et les 2 autres sont à la tête d'États fantoches. Parce que...
Zaporizhia
Oui, à Kherson, j'ai même lu que 690 et quels votants dans tout le district. Bon, Et pour Zaporizhia, il y a la grande ville qui n'est pas comprise. Donc, il y a déjà la moitié de la population n'a même pas voté. Donc vous êtes à la tête d'un machin comme ça qui a été proclamé à la force du fusil.
Plus tous ceux qui sont partis aussi.
Et plus tous ceux qui sont partis.
On,
et ceux
on
qui
les oublie
en,
pas.
En Ukraine n'ont pas eu le droit de voter. Mais on est allé chercher ceux qui sont allés en Russie. On en a trouvé quelques-uns avec l'urne. Voter, voter. Donc il a un peu des clowns. Ce sont des petits roitelets, de petits États insignifiants. Donc le mettre à la même table, c'était vraiment s'abaisser.
Et Céline Villa, intéressant quand même comme image pour lui qui fustige les États-Unis en disant ce sont des colonialistes qui ont fait des autres des vassaux. Il est en train de faire la même chose, mais dans un contexte inversé en fait.
Et parce qu'en fait, tout ça est stratégique, c'est-à-dire... Bien entendu, il n'y croit pas un seul instant aux âneries qu'il débite par paquet de 12. La vérité, c'est qu'il est dans la stratégie du bouc émissaire. Vous avez en fait deux manières de garder le pouvoir. C'est de créer un projet qui, à un moment donné, va enthousiasmer, rassembler, ou du moins vous permet d'aligner les hommes qui vont le réaliser, ou alors vous leur désignez un ennemi commun. Mm-hmm. L'avantage de désigner un ennemi commun, c'est que vous montrez à quel point cet ennemi est dangereux pour eux, chacun individuellement, et vous vous posez en protecteur ou sauveur potentiel. Moyennant quoi, une fois que vous avez installé cette histoire, peu importe le réel, l'essentiel, c'est que les gens y croient. Et un vrai totalitaire pense que la réalité n'existe pas et qu'une bonne représentation bien vendue peut devenir une réalité, et de fait, ça peut marcher pendant un certain nombre d'années. À la fin, ça finit toujours par craquer et le réel reprend le dessus, mais l'Union soviétique a duré 70 ans.
Oui, mais là,
donc on peut investir sur ce type de logique. Du coup, les Gugus qu'il a mis à la tête de ces petites républiques, pour lui, de toute façon, ce ne sont jamais que des dirigeants de province. Voilà, lui, président de la Russie, et eux... Ils ne viennent même pas du même monde.
Oui. Enfin, bénéficiant du rayonnement et de la protection du grand frère russe quand même. Hein.
Oui, mais
c'est tout à leur avantage de son point de vue.
On est un inférieur.
Pierre Lelouch, pour une petite précision sur ça.
Parce que ce que dit Mme Pina est juste, sauf que le système soviétique n'a jamais été fondé sur l'adhésion. Les gens n'y croyaient pas. Ouais. Même à l'époque, moi, je suis assez vieux, malheureusement, pour avoir été en Union soviétique, avoir parlé aux gens, ils n'y croyaient plus. Plus personne n'y croyait. Mais il y a une espèce de résilience... et puis de peur, le système est quand même extraordinairement contraignant. Mais avec le poutinisme, on est passé à un grade supérieur, si j'ose dire, parce qu'il n'y a même plus les contrepoids qui existaient du temps du Parti communiste. Du temps du Parti communiste, il y avait un comité central, il y avait un politburo, il y avait un groupe de gens qui désignaient le leader. Et quand il y en avait un qui n'était pas à la hauteur, ben, en général, on l'exfiltrait, on le changeait. Et même on changeait parfois avec Gorbatchev en prenant des risques, ça a donné ce que ça a donné. Mais là, autour de Poutine, qui sont quel est l'organe
Il a fait un pouvoir entièrement à sa main.
Il y a quelques affidés qui tiennent les ministères clés. Il y a un porte-parole que tout le monde connaît, qui est sous sanction. Il y a le ministre des Affaires qui est sous sanction. Il y a Shoigu, le ministre de la Défense, les chefs d'état-major, le patron des services sociaux. Mais tout le monde est tétanisé. Et alors, donc, la vérité, c'est qu'il est tout seul. Donc là, il a convoqué dans la salle des colonnes la totalité de la Douma et du Sénat. Donc, tout le monde, naturellement, a écouté sans broncher. Mais jusqu'où ils y croient
En tout cas, vous voyez que ça ne bronchait pas dans la salle. Juste pour préciser, d'ici, il est 16h.
Je suis sûr qu'ils croient à un discours totalement anti-américain.
D'ici une heure environ, il y aura un autre discours, mais ce qui, lui, sera prononcé sur la Place Rouge, avec force défilés, concerts. Il l'avait déjà fait au mois de mai. Hein, ça, c'est le genre de manifestation de soutien dont il a le secret et qu'il affectionne particulièrement. Mais j'aimerais qu'on revienne, Jean-Michel Fauvergue, à ce qu'il a dit à propos de ce fameux gazoduc qui a explosé par deux fois, le fameux Nord Stream. Évidemment, les Occidentaux accusent la Russie, qui ça pourrait bien servir d'avoir envoyé un tel signal. Lui a dit, sans embâche, ce sont les Anglo-Saxons derrière. Regardez, écoutez cette séquence, cet extrait.
Les Anglo-Saxons, eux, ont eu recours à la diversion. Ils ont mis en place peu de sanctions. Ils ont organisé une explosion sur les gazoducs de Nord Stream dans la mer Baltique et ils ont détruit l'infrastructure énergétique de l'Europe. Et il est évident de voir à qui ça bénéficie, cela.
Jean-Michel Fauvergue, là, on est parti dans une guerre d'intox. C'est difficile de savoir. On ne sait même pas si l'enquête nous donnera la réponse, en fait.
Bah oui, c'est difficile de savoir ce qui s'est passé réellement. Et à défaut, et effectivement, on est dans une guerre d'intox du côté de Poutine en particulier. Alors, est-ce que c'est les Anglo-Saxons, les Américains qui auraient fait exploser le Nord Stream? Ça semble très bizarre. Certains services spéciaux nous ont habitués à des choses un peu bizarres aussi, mais il faut savoir quand même que d'une manière générale, si ça devait être des alliés qui ont fait exploser ce gazoduc, ça serait particulièrement dangereux si ça se sait ultérieurement avec un retournement d'alliance, enfin, ou en tout cas des problématiques. Non, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que ce qui vient d'être développé sur ce plateau-là aussi, c'est que la Russie est capable de dire, voyez, attention, je suis Russie qui peut-être à l'origine de ça, hein, sans doute. Je suis capable d'agir, je suis capable de frapper, et je suis capable de frapper parce que j'ai la technique pour le faire. Et je suis capable de frapper sur ce gazoduc-là, mais je peux en frapper d'autres, et je peux travailler sur vos approvisionnements. Il a employé le mot de crise énergétique, le Poutine. Hein. Donc,
ça pourrait être un signal qu'il envoie.
C'est une démonstration.
Je peux tout détruire comme infrastructure.
Tout à fait, effectivement.
Pierre Lellouche, c'est pas simple à faire. Si on parle de l'opération elle-même pour faire exploser par deux fois d'ailleurs ce Nord Stream, non mais il faut des plongeurs aguerris, ça se passe par 80 mètres de fond quand même.
Oui.
Il faut une charge explosive conséquente, c'est plusieurs centaines de kilos d'explosifs, au moins une centaine de kilos d'explosifs, je crois. Tous les pays ne peuvent pas se livrer. Enfin, pour le savoir-faire, tous les pays ne sont pas en mesure de faire ça quand même.
Nous, on a très bons nageurs de combat en France, ouais. Ils sauraient faire ça. Moi, j'ai eu quelques décennies de plongée sous-marine. 80 mètres de fond, c'est compliqué, mais ce n'est pas hors
de portée. Mais est-ce que les Russes ont accès à cette partie-là du Nord Stream ?
Non, on n'est pas en train de parler de choses surhumaines. Hein. Ce sont des mines. Il y a toutes sortes de matériel pour faire péter ce genre de choses, même s'il y a du béton autour du tuyau. Non, ce que ça me rappelle, c'est ce que font... cette demi-guerre non déclarée, mais dont on soupçonne quand même probablement que, etc., c'est ce que les Iraniens font dans le Golfe depuis des années. Ils vont accrocher des mines sous les bateaux sans dire que c'est eux. Alors, de temps en temps, ils sont filmés quand même par les Israéliens ou quelques autres, mais on envoie des drones, on envoie des mines, on envoie des bateaux avec ou sans drapeau commettre des attaques dans le Golfe pour dire... Le contrôle du Golfe, c'est nous qui le tenons, mais on ne le dit pas ouvertement pour ne pas rentrer dans une guerre et une escalade militaire immédiate.
Du travail de sape ?
Non, c'est un autre message, mais c'est un message qui dit vous n'allez plus avoir notre gaz cet hiver. D'ailleurs, nous, on préfère vous l'envoyer sous forme de bulle ou même le brûler, c'est ce qu'ils font. Vous n'allez plus avoir notre gaz, mais on est capable de vous couper aussi le gaz qui arrivera par bateau du Qatar ou des États-Unis. On peut aussi vous faire péter vos canaux Internet. Tout ça, c'est extrêmement vulnérable. Vous savez qu'aussi dans l'espace, il y a une très grande vulnérabilité et tout un tas de choses peuvent être faites qui ne sont pas signées. Et nous travaillons, nous avons créé un commandement de l'espace en France parce qu'il y a énormément d'attaques qui peuvent se dérouler dans une escalade comme celle-là qui est très complexe, où se jouent des intérêts économiques, énergétiques, alimentaires et autres. Vous avez plein d'interférences. C'est pour ça que très honnêtement, je pense qu'on revient sur la question de savoir si on va jusqu'au bout de la morale ou bien s'il faut à un moment arrêter les frais parce que les conséquences géopolitiques mondiales seraient absolument dévastatrices. Non, on parle beaucoup d'escalade nucléaire, certes, mais enfin, il y a tout le reste aussi. Et donc, voilà, tout ça va être sur la table.
C'est ça, Céline Pinel, la guerre moderne, c'est-à-dire avec d'autres...
Mais en fait, la guerre, ça a toujours
d'autres
été
armes
ça,
à disposition.
C'est-à-dire que la guerre, c'est vous mobiliser, c'est pas que militaire. Enfin, surtout la guerre au XXe siècle. La guerre à l'époque où vous avez des rois, où déjà le service que vous devez au roi est très limité dans le temps, dans le nombre, etc. On n'est pas du tout là. Le XXe siècle a fait naître le concept de guerre totale. Et la guerre totale, c'est tout votre appareil mis au service de la guerre. Donc appareil industriel, productif, mais aussi culturel. Voilà, c'est une espèce
cyber,
de gros rouleau compresseur qui avance. Donc il est, à ce titre-là, il est normal et entre guillemets moderne. Mais la réalité, c'est pourquoi mettre les gens en face de leur vulnérabilité ? C'est pour obtenir le recul. C'est-à-dire que quand vous dites à quelqu'un « mais là, vous allez continuer dans ce sens-là », très bien, voilà ce que moi, je peux faire. Vos Américains, ils peuvent faire quoi pour vous ? Parce que le problème, c'est qu'à un moment donné, la fourniture de gaz par bateau, ça marche quand même moins bien que par gazoduc. Et qu'en plus, les Américains ne peuvent pas compenser l'Europe entière en train de se casser la figure. Donc, il envoie un signe très fort en disant « vous êtes en crise énergétique, j'ai les moyens de vous mettre en partie en crise alimentaire ou de moins mettre vos partenaires africains dans une situation impossible. J'ai les moyens également de menacer, de faire peur à ceux qui sont à la lisière de l'Europe. Et il faut entendre les Polonais, ce qu'ils disent sur cette guerre. Ils sont quand même extrêmement effrayés par tout ce qui se passe. Donc la déstabilisation, elle est politique, elle est économique, elle est industrielle. Et à ce titre-là, à un moment donné, vous ne pouvez pas vous payer le luxe de la morale. Donc vous essayez de trouver quelque chose qui permet à tout le monde de sortir par le haut et qui se fait en général sur le dos de l'agressé.
Pierre Lelouch, il y a un extrait qui m'a frappé. Je vais vous le lire en gros, pratiquement en verbatim, sur le rapport entre les Américains. J'insiste, parce que le rapport tel qu'il le voit entre les Américains et leurs supposés donc vassaux européens, c'est très intéressant, ça nous concerne au premier chef, après tout. Il dit « La guerre chimique a entraîné une vague d'immigration de l'Ukraine. L'élite américaine, il a dit plusieurs fois le terme d'élite américaine, utilise la tragédie de ces personnes, sous-entendu ces réfugiés ukrainiens, ces pauvres personnes qui n'ont rien fait, selon lui, pour affaiblir leurs concurrents, détruire des nations. Les États-Unis veulent s'emparer du marché européen. Mais là, et c'est encore plus grave, les mêmes Européens qui le comprennent, mais qui trahissent quand même leur peuple. » Ça va quand même très très loin dans le raisonnement. Est-ce que c'est le raisonnement d'un type qui a complètement perdu pied et perdu les pédales, ou est-ce que d'une certaine manière, ce raisonnement se tient la route ?
Non, je crains que c'est un mélange de tout ça, mais ce que ça révèle surtout, c'est un souverain mépris pour les Européens. La seule partie qui intéresse Poutine, et avant lui les Russes en général, c'est les Américains. Il joue dans cette cour-là. Les Européens, c'est tout à fait secondaire. Et si vous voulez, tant que les Européens sont dans le wagon de von der Leyen et de l'OTAN, ils n'ont rien à apporter aux Russes. Donc ça ne les intéresse pas. C'est pour ça que, avec tout l'instinct qui était juste de Macron de vouloir garder le canal ouvert avec Poutine, il faudra bien en sortir un jour. Et là-dessus, il a raison. Si vous allez au téléphone avec Poutine, un gars qui fait toute sa carrière au KGB en général, parle pas au téléphone, mais bon, si vous allez le voir et que vous n'avez rien d'autre à dire que la mantra de Washington et de Bruxelles, alors ça n'a aucun intérêt pour lui. Lui, ce qu'il attend, c'est de voir ce qu'il peut gratter à droite ou à gauche en Europe. Si tout le monde est dans le même bas, tout le monde dit la même chose, sauf le Turc. Le Turc, c'est le seul malin de la bande, parce que lui, il a réussi à la fois à être copain avec les Ukrainiens à qui ils vendent des drones, et il parle aux Russes. Il ne met pas de sanctions sur les Russes, il a du gaz russe, mais il se cogne avec les Russes en Libye, en Syrie et ailleurs. Donc le Turc, il a joué sa partition, mais les Européens,
ils se sont alignés sur Washington. Ils laissent passer le canal d'approvisionnement aussi.
On laisse Mme von der Leyen, et ça je dois dire que ça m'insupporte à un point que j'ai été ministre de l'Europe, je sais ce que c'est que la Commission. La Commission n'allait pas supposer faire la guerre, excusez-moi. Les États sont les gens qui ont la légitimité pour aller faire tuer les gens, prendre des budgets de défense. Mais quand j'en vois cette dame et son espagnol nous expliquer que c'est eux qui pilotent la guerre, mais c'est quoi la légitimité de ces gens, quoi ? Ouais. Et au nom de quoi elle parle avec le secrétaire général de l'OTAN et tous les autres disparaissent. Alors, vu de Moscou ou de Washington, ça compte pas. Les Américains non plus s'intéressent pas à l'Europe. Ils sont alignés. Et je le regrette. Mais moi, je suis un vieux gaulliste. Je voudrais que mon pays existe dans tout ça. Si demain ça dégénère,
attendez. Combien de divisions ?
Parlons d'un scénario épouvantable où demain il y a une arme nucléaire tactique qui est utilisée parce que quelqu'un d'autre fera des erreurs de calcul. Parce qu'il y en a eu plein depuis des mois. Supposez qu'une bombe atomique tactique soit utilisée en Europe, mais qui va payer la note ? C'est les Européens, pas les Américains. C'est loin, mon tactique. Mais en Europe, il y a deux puissances nucléaires, en plus des Russes. Il y a les Anglais et les Français. On fait quoi, nous ? C'est quoi le scénario ? C'est quoi la réponse si c'est une arme nucléaire en Europe ? Donc, j'estime qu'en tant que Français, on a quelque chose à dire dans ce processus qui est très compliqué et très dangereux. Et ça me désespère de ne rien entendre. On est dans le wagon qui va à Kiev, qui prend les sanctions. On dit, il y a de nouvelles sanctions. On fait de nouvelles sanctions. Pourquoi faire? C'est quoi le but? Attendez. La sanction, c'est très intéressant. Mais c'est quoi le but? C'est punir les Russes parce qu'ils sont, ils ont cette maladie définitive de l'impérialisme. Alors on les punit, on coupe définitivement. Ou bien c'est quelque chose qu'on échangera dans le cadre d'un accord de paix. C'est deux choses différentes.
Jean-Michel Fauvergue,
on n'est pas obligé d'acquiescer à tout ce qui arrive de Bruxelles.
Il faut qu'on sorte aujourd'hui de ce train de sanctions, de ce wagon européen des sanctions, qu'on se démarque, comme le suggère Pierre.
Alors si vous me demandez, c'est faut qu'on se démarque des Américains en ne faisant pas pareil qu'eux. Les choses sont déjà faites parce qu'on n'a pas les moyens de faire pareil qu'eux déjà.
C'est pas faux.
Pour commencer. Mais la deuxième chose, c'est que je pense que les sanctions économiques, c'est quelque chose moi qui me semble important. Alors effectivement, pour l'instant, on n'est pas au maximum de leur capacité. On verra si ça fonctionne. En particulier sur l'appareil militaire russe, parce que c'est vrai que les Chinois peuvent par la bande donner un peu de matériel numérique pour les armes, etc. Mais à un certain moment, on peut peut-être espérer que les choses portent leurs fruits dans ce domaine-là. Mais il faut surtout, et là je suis d'accord totalement avec Pierre Lelouch, il faut surtout que la France, mais aussi l'Europe, arrive à parler, et ça c'est d'une seule voix, et ça c'est difficile parce qu'on voit alors il y a des moments où elle agit en commun, mais surtout elle se fragmente, en particulier avec les pays qui sont au bord de la crise et qui connaissent bien la Russie, comme la Pologne et les pays baltes, elle se fragmente dans ces domaines-là, et la parole n'est pas très nette. Et puis, mais je ne reviendrai pas là-dessus, parce que Pierre l'a développé. On a aussi une présidente de commission qui va au-delà de ses fonctions et de manière assez maladroite, et elle nous dessert puisqu'elle nous a servi dans ce domaine-là.
Disons que c'est pas la meilleure ambassadrice aujourd'hui.
Ça l'a pas été sur cette affaire-là. Ouais.
Alors juste un mot quand même, juste pour rappeler le contexte aujourd'hui, ce qu'on va parler de la réponse des Américains. On n'a pas encore entendu évidemment Washington après ce discours. Il y a deux choses. Il est encore tôt aux États-Unis. Il est environ 10h du matin à New York. L'ONU doit se réunir aujourd'hui, le Conseil de sécurité, pour une résolution. On sait très bien quelle en sera l'issue, puisque de toute façon, la Russie usera de son droit de veto en tant que membre permanent pour s'opposer à cette résolution qui ne passera pas, comme beaucoup de résolutions onusiennes d'ailleurs. Mais surtout, ce qu'on guette, Céline Pina et Harold Diman, c'est la réponse de Joe Biden, s'il en formule une quelconque. Est-ce que c'est dans son intérêt de répondre directement à ce qu'a dit Vladimir Poutine aujourd'hui? Harold, peut-être pour commencer.
Il a tendance à répondre de manière légèrement décalée et de revenir avec des idées à lui. Il ne va pas dire « tenez, il a dit si, je dis le contraire, ouais », etc. Donc, non, il ne va pas répondre si directement, mais à sa prochaine allocution, il va évidemment inclure tout ce qui a été dit. Vous avez vu cet homme qui n'a aucune limite, ça défie l'entendement, puis il va faire « ah, le gars exaspéré », c'est son style. Par contre, si j'inverse un peu votre question, c'est ce qui est drôle chez Vladimir Poutine, c'est qu'il a fait encore une fois l'inversion de tout ce que nous on dit de lui. Il a dit que nous pratiquons la guerre informationnelle. Ça a toujours été le truc du KGB, du FSB, tout ça, du GRU, ses services secrets. C'est vous qui faites la guerre hybride, alors que c'est un peu lui qui l'a imaginé. C'est vous qui faites le colonialisme. Bon, c'est vrai que nous, on l'a fait plus que lui, mais il en a tout plein. Et c'est vous qui avez détruit l'Allemagne et le Japon, comme si l'Union soviétique n'avait pas attaqué le Japon après avoir attaqué l'Allemagne. Et il finit avec cette belle phrase. La liberté, c'est l'âme russe. Il a quand même sorti ce concept. Alors que nous, on dit que la liberté, c'est la démocratie. Donc il a tout inversé. Donc voilà.
Il le reprend à son compte.
Oui, mais il reprend. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend à son compte des crises et des discours politiques qui travaillent aujourd'hui l'Europe, qu'on connaît par exemple nous en France, mais autour des thèmes de wokisme, de racialisme, etc.
L'immigration.
Voilà, et en fait, il tape là où ça fait mal, c'est-à-dire que effectivement, ce qu'il raconte est délirant, mais en même temps, il met le doigt sur des tensions qui font qu'aujourd'hui, en Europe, l'Europe ne sait plus qui elle est, et un certain nombre de pays ne savent même plus se définir définir eux-mêmes et ne savent même plus ce qu'ils incarnent et ce qu'ils défendent. Donc, il met vraiment le doigt là où ça fait mal, malgré tout.
Sur l'identité,
ouais. Oui. Et en plus, comme cette identité est la seule chose qu'il incarne, puisque justement le communisme est mort, mais lui, il prétend incarner quelque part l'âme russe, la Russie éternelle. Il dit aux Russes, la dernière chose qu'il vous reste risque de vous être enlevée. Regardez ce qui arrive aux Occidentaux.
Regardez ce qui arrive aux Européens.
Voilà.
Parent 1, parent 2, immigration,
c'est ça,
ils disparaissent.
Il a fait, qu'il emploie montrent qu'il connaît le débat et qu'il voit à quel point ça déroute les gens et à quel point ça participe de la crise de la démocratie. Or, lui n'est pas un démocrate. La seule chose qu'il est en train de dire, c'est si vous voulez que votre identité soit défendue, ne vivez pas en démocratie, ce qui est quand même une attaque très frontale.
Ouais. Est-ce que ce discours peut faire mouche dans le sens de remobiliser tout le monde? On va peut-être parler des conscrits, ces 300 000 réservistes qu'il compte mobiliser pour partir combattre. On sait qu'il y en a un certain nombre de jeunes hommes en âge de combattre qui peuvent être appelés, qui ont tenté de fuir. Est-ce que ces hommes, fondamentalement, Pierre Lellouche, ne veulent pas se battre parce qu'ils veulent pas se battre eux-mêmes, mais adhèrent quand même à la cause, c'est-à-dire que la cause, potentiellement, ils la trouvent juste, ou c'est parce que vraiment, ça dénote déjà une sorte de rébellion interne contre ce qu'il incarne aujourd'hui?
Disons, dans la jeune génération, il y a quand même beaucoup de gens qui vivent avec le modèle occidental. Toutes ces dernières années, avant que ça dégénère en Ukraine, la Russie s'était singulièrement rapprochée du modèle occidental. Il suffit d'aller dans les grandes villes russes, les grands magasins, le mode de consommation, les gens voyageaient beaucoup, beaucoup de gens, il y avait cette classe moyenne russe qui voyageait, qui ne comprend pas très bien.
Donc ils sont tiraillés aujourd'hui.
Bien sûr, l'ancienne génération, non. Alors est-ce que ce discours sur la fierté nationale, les valeurs russes, la culture, la civilisation russe qu'il faut protéger par rapport à un Occident décadent et perverti, et même satanique dans l'organisation de la famille, hein, c'est du satanisme pur, il a dit. Donc, il joue sur ses réflexes de peur et de. Moi, je défends la Russie authentique, la civilisation russe. Ça va marcher. Est-ce que c'est comparable à la grande guerre, ce qu'ils appellent la grande guerre patriotique? Je suis pas trop sûr. Il faudra regarder. Le gros de la population dira pas grand-chose, se laissera faire. Chez les jeunes, ce sera plus compliqué, surtout ceux qui doivent aller mourir.
En tout cas, ceux qui ont déjà tenté de rejoindre d'autres pays. Une image, parce que ça intervient en ce moment, celle de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui apporte sa réponse à Vladimir Poutine via un message qui est diffusé en ce moment, dans lequel il demande d'ailleurs une adhésion accélérée à l'OTAN. Est-ce que cette demande a une quelconque chance, Jean-Michel Fauvergue, d'être reçue positivement dans le contexte actuel?
Au départ, c'était une des problématiques qui a justifié ces annexions, qui a justifié l'opération spéciale des Russes. Donc, est-ce que ça va avoir beaucoup plus de chance aujourd'hui? J'en suis pas sûr. Peut-être en réaction, mais je le pense pas, je le pense pas réellement. Ceci étant, chacun joue sa partition. Lui est en train de jouer sa partition de guerre et de reprise du territoire national. Il est sur une période qui est faste pour lui. Il est en train
de. Et lui, dans son rôle, de toute façon.
Dans son rôle. Poutine était malheureusement dans son rôle aussi, mais on peut voir pour l'un et l'autre des scénographies différentes. Hein. Là, c'est très clair. Poutine était dans une. Tout à l'heure, vous disiez les quatre étaient sur une table à côté. Lui était dans une autre table, etc. C'est une scénographie qui est fait de manière très consciente. Son arrivée dans la salle, son discours, le fait de signer, ensuite de passer à ses vassaux la signature, c'est une scénographie de quelqu'un qui est au pouvoir, qui veut démontrer qu'il est au pouvoir, etc., et qui s'adresse à un public qui lui est acquis. Zelensky le fait différemment, se met en scène différemment. Et tous les deux sont en train de jouer leur partition de ce point de vue-là.
Harold, on est d'accord que l'adhésion à l'OTAN n'a aucune chance d'intervenir là dans les mois qui viennent, d'autant que intégrer l'Ukraine dans le commandement intégré de l'OTAN, ça signifierait pour tous les États membres lui voler au secours en cas de guerre. Et les États-Unis n'iront certainement pas se livrer à ce genre de combat. En tout cas, pas directement.
Joe Biden l'a dit dès le début. Il ne faudrait pas qu'il y ait une guerre directe entre l'OTAN et la Russie. Cette guerre est pour la libération de l'Ukraine et non pas une guerre contre la Russie. Il a répété plusieurs fois.
Donc pourquoi il dit ça, Zelensky, sachant que ça ne va pas arriver? Enfin, il a aucun intérêt.
Pourquoi il dit ça?
Pour se victimiser ensuite.
Le peu de posture qu'il peut avoir, c'est ça. Hein.
C'est ça.
C'est un appel.
Il joue sa partition. Il joue
avec. Mais il sait très bien que ça lui sera refusé. Donc. C'est
pas un souci. Je ne sais pas. Moi, j'ai pas lu le texte de cette lettre. Je pense que c'est la lettre qui est la demande d'adhésion à l'OTAN, mais j'ai pas lu ce qu'il a exactement dit. Donc, c'est compliqué de commenter. Mais si il demande l'adhésion à l'OTAN, ben c'est un. De son point de vue, c'est logique. Dans la mesure où une partie de son territoire est maintenant sous la dissuasion nucléaire de la Russie, il se tourne vers ses amis occidentaux en leur disant « Bon, il m'a piqué un bout qui est maintenant protégé par des armes atomiques russes. Je voudrais que le reste de mon pays soit protégé par des armes nucléaires. »
Mais nous sommes d'accord qu'il ne se fait aucune illusion sur l'issue de cette demande.
Écoutez, je ne sais même plus. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il est sérieux, il est en train de demander aux Occidentaux d'envisager
de se battre
mais complètement, c'est-à-dire d'aller jusqu'à l'escalade nucléaire dans le but de reprendre ces territoires. Est-ce que ça a des chances de prospérer? Je suis pas sûr que ce soit la plus intelligente des initiatives qu'il ait prises, parce que ça risque d'envoyer un signal de crainte. Déjà que l'opinion chez nous et partout en Europe, il y a énormément d'inquiétude. Que moi je ressens dans mes conversations avec les gens sentent que nous vivons un moment d'histoire grave. Si maintenant l'idée c'est de passer aux armes nucléaires des deux côtés, je ne suis pas trop sûr que ça fonctionne dans les intérêts de M. Zelensky. Pas trop sûr.
Les pays de l'Est ont une vision de la Russie qui est différente de la nôtre. Nous on est plus distanciés, eux c'est quand même beaucoup plus tribal. Et lui pense réellement qu'en fait, à terme, l'Europe est menacée. Donc en fait, ce qu'il dit, c'est « aujourd'hui, j'ai raison trop tôt. Si vous me rejoignez, peut-être éviterez-vous les catastrophes qui auront lieu dans les années à venir. » Donc lui aussi a construit en fait un storytelling dans lequel l'Europe, pour se protéger elle-même, gagnerait. C'est l'idée, si vous étiez intervenu à l'époque où Hitler menaçait toute l'Europe, peut-être n'y aurait-il pas eu que les Anglais à un moment donné pour résister à la grande vache fasciste qui a emporté toutes les démocraties. Donc chacun se remet dans une sorte de storytelling dramatique, et lui, son récit n'est pas délirant non plus. Simplement, aujourd'hui, aucun pays de l'Europe ne veut aller faire la guerre physiquement, envoyer des soldats et réceptionner des cercueils au retour. Donc pour l'instant, non, je ne pense pas que l'OTAN répondra à cette demande.
Et surtout pas Joe Biden, Harold Diman, nous sommes d'accord. Après l'Afghanistan, après les autres guerres, avant cela, on pense aussi évidemment à l'Irak. Pas question d'envoyer à nouveau des soldats sur le terrain pour une cause qui n'est pas directement une menace pour l'intégrité géographique des États-Unis. Ça, c'est la nouvelle doctrine américaine.
Sauf que la nouvelle doctrine s'agrémente de la défense contre la Chine, qui, elle non plus, n'est pas tout à fait sur la frontière. Non, je crois qu'ils ont assimilé l'idée à Washington que la guerre se fait beaucoup plus loin. Mais il n'a tout simplement pas envie de faire la guerre à la Russie. L'idée étant qu'elle pourrait s'imploser tout doucement si on la laissait mariner dans son jus, toute seule. Mais là, je viens de lire en diagonale la lettre de Zelensky qui vient de signer, et il dit nous ne voulons pas un stade intermédiaire avant d'entrer dans l'OTAN. Nous voulons aller aussi rapidement que la Finlande et la Suède. Ça c'est l'idée.
Tout à l'heure, je disais que l'Amérique était, avec la Chine, la grande gagnante de cette opération jusqu'à présent. Mais une des choses les plus positives pour les Américains, c'est que ça se fait sans body bags, sans morts. Il y a zéro mort. La première chose qu'a fait Biden avant, c'est-à-dire qu'ils allaient attaquer, mais il a retiré les conseillers américains. Il y avait des conseillers militaires américains en Ukraine. La première chose qu'il a faite, début de la guerre, c'était de les retirer et de dire clairement, je ne ferai pas la guerre à la Russie. L'Amérique n'est pas en guerre contre la Russie. Bon, la lettre de Zelensky demande une accession immédiate, sans passer par ce qu'on appelle les les phases d'adhésion qu'il y a dans la bureaucratie otanienne. Je veux y entrer tout de suite, mais ça veut dire que l'article 5 s'applique tout de suite. Et l'Ukraine étant en partie occupée, l'article 5 se déclenche, c'est-à-dire que les autres, là, on fait rentrer les chars, les avions, les forces des pays voisins, de l'Allemagne, de la France.
Donc, de facto,
couverture nucléaire. Et dans sa logique à Zelensky, qui a toujours été une escalade vers « vous m'en donnez pas assez », depuis le début, il accuse les démocraties de ne pas en faire assez pour la défense de l'Ukraine, alors que ça a explosé tous les budgets, moi, je n'ai pas de mémoire d'aide militaire aussi massive accordée à un pays tiers sans lui demander d'ailleurs quel était le but
de la guerre. Pierre, c'est en ce sens-là que j'utilisais le mot de victimisation tout à l'heure, en disant je vous demande de faire ça pour nous, et si vous ne le faites pas, eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'après on vienne nous tuer.
Voilà, il a construit le narratif dont parlait Mme Pina, qui est juste, et qui est d'ailleurs soutenu par les Polonais et les Baltes, c'est la première étape vers une invasion de toute l'Europe. Ce qui est, à mon avis, complètement fantaisiste, mais peu importe. Ils en sont convaincus, les pays qui sont limitrophes de la Russie sont convaincus, l'Ukraine est convaincue de ça. Et donc, ces pays, les Baltes, les Polonais, seraient probablement d'accord pour faire rentrer l'Ukraine tout de suite dans l'OTAN. Enfin, les Baltes, les Polonais, pas tellement envie de rentrer dans une guerre avec la Russie tout de suite. Mais la signification de cette lettre, soyons clairs, c'est que l'article 5 s'applique, les armes qu'on n'a pas livré jusqu'à présent, c'est-à-dire les chars et les avions rentrent en Ukraine, les pilotes aussi, les conseillers militaires aussi, et la dissuasion nucléaire occidentale s'applique à ce moment-là.
Quand vous demandez quelque chose d'impossible, c'est qu'en général, vous avez un autre objectif. Et vous attendez qu'on vous dise non à ce qui est impossible. Vous savez que les opinions publiques occidentales, elles, sont choquées et sont quand même dans une forme de va-t-en-guérisme, surtout si elles ne doivent pas en payer le prix. Donc, vous demandez quelque chose que l'on vous refuse et du coup, parce qu'on culpabilise, pour calmer un peu les opinions publiques, à ce moment-là, on vous donne autre chose. Donc, c'est toujours une manière d'obtenir
quelque chose,
soit des armes, soit des financements, soit de l'aide, etc. Et parfois, obtenir un non sur un dossier vous permet d'obtenir trois oui.
Ça peut monter les enchères.
C'est une tactique qu'on utilise tous, hein.
Jean-Michel Fauvert.
Oui, c'est ça. Plus qu'une victimisation, c'est une stratégie. C'est une stratégie d'abord vis-à-vis de son opinion publique à lui, Zelensky, pour dire voilà, il s'est passé ça en Russie. Moi, je ne l'accepte pas et j'en demande plus. Effectivement, c'est une stratégie aussi vis-à-vis de ses alliés et de ceux qui lui viennent en aide pour effectivement avoir sans doute. Je pense pas qu'il y croit beaucoup à l'adhésion immédiate à l'OTAN, mais pour avoir beaucoup plus d'aide et trouver des moyens.
C'est un levier, quand même.
Ce sont des leviers, ouais. Et puis il y a toute une. Là aussi, il y a toute une scénographie, une mise en scène des ripostes par rapport au discours des uns et au discours des autres.
On parle souvent de choc des civilisations. Si on place ça d'un point de vue d'une sorte de choc de civilisation, est-ce qu'on est là dans deux civilisations qui s'affrontent aujourd'hui, mais dans le monde chrétien, là où peut-être on n'attendait pas ce face-à-face?
Oui, il se passe des trucs très bizarres quand même, honnêtement. Ce discours d'aujourd'hui non aligné, revisité par la Russie, c'est quand même assez étrange. Surtout que les meilleurs copains maintenant de la Russie, ce sont les chiites... à Téhéran, qui livre des drones aux Russes. C'est quand même très étonnant ce qui se passe. La Russie se présente comme le vrai Occident, la nouvelle Rome, par rapport aux valeurs décaties des Occidentaux, mais elle se présente aussi comme le chef de file du reste du monde contre les Occidentaux.
C'est pas les orthodoxes contre le reste de la chrétienté.
Je n'achète pas cette théorie-là. C'est plus une coupure, alors une déchirure par rapport au monde occidental. Et ça me navre, parce que j'ai toujours pensé que la Russie faisait partie de l'Europe. Mais chez nous aussi, il y a un tas de gens qui disent on ne laisse plus rentrer les Russes en Finlande aujourd'hui, même les déserteurs. Certains veulent interdire de jouer ou de Tchaïkovski ou de lire Dostoïevski, on interdit les chats russes dans les expositions de chats. Enfin, on voit des choses aussi côté occidental qui disent que la Russie est malade de sa maladie impériale, qu'elle a ce virus, qu'on lui enveler le virus par la force si nécessaire. Donc, Je crains malheureusement, quand je lis un certain nombre de nos intellectuels, pas seulement américains, mais parisiens, qui vous expliquent qu'on a affaire à un pays qui est fondamentalement totalitaire, dirigé par des terroristes, etc., on n'est pas dans un accord. On est des... Moi, j'entends à Paris des gens parler de guerre civilisationnelle, pas seulement à Moscou. C'est ça qui me navre, c'est que la montée sur le cocotier des imprécations, elle est réciproque, elle n'est pas que russe.
Moi, je vois une opposition entre deux systèmes politiques sans plus, parce que la culture orthodoxe qui serait différente, on a internalisé tout ce qui était bon dans la Russie depuis très longtemps. Vous allez rue Saint-Sébastien à Paris, le restaurant Les Trois Violons russes, il est ouvert tous les jours. Je n'ai pas vu une bouteille de peinture ni rien. Il y a des clients, je vais y aller un jour d'ailleurs.
Mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Il y a aussi la Serbie qui est un allié, par exemple, de la Russie, qui permet aussi, d'une certaine manière, de commercer avec les Russes. Il y a quand même des alliances naturelles qui se sont forgées derrière cette opposition.
Oui, Russie, c'est un peu le panslavisme dont on parle là. Et la Bulgarie aussi, qui mène une campagne électorale en ce moment où personne ne dit du mal de Poutine, sinon il est éliminé de la carte électorale.
Donc ils vont crever de... Ils sont très pauvres, ils n'ont plus d'énergie du tout.
Absolument.
Ils ne savent pas comment ils vont chauffer cet hiver.
C'est vrai, c'est vrai. Et leur devise nationale, c'est toujours avec l'Europe, jamais contre la Russie.
Non, mais ce qui peut être curieux, c'est... Alors qu'il y a des moments où on a des affrontements civilisationnels violents, et ce qui se passe aujourd'hui entre les revendications islamistes dans le monde, pas spécialement en France, mais entre la montée de l'islamisme dans le monde face aux démocraties, là on est dans un vrai choc de civilisation, avec des principes et des idéaux qui ne sont pas compatibles et qui s'affrontent. Et là, personne ne veut prononcer ces mots, parce qu'on a presque l'impression qu'ils vont faire peur et qu'ils pourraient créer une réalité qu'on ne sait pas contrôler. Alors que là où on a plutôt un affrontement de systèmes politiques, mais on ne voit pas la dimension civilisationnelle, ni entre la Russie et l'Ukraine, ni tant que ça entre la Russie et l'Europe, à ce moment-là, on sort le logiciel civilisationnel, alors que pour le coup, c'est pas le meilleur pour expliquer la situation qu'on est en train de vivre. Voilà, c'est ce qui m'étonne, personnellement.
Mm-hmm. Mais quand on vient quand même à la teneur du discours, et vous le notiez, Pierre, il a prononcé un discours d'environ 45-50 minutes. Il a passé très très peu de temps à parler de l'annexion, à proprement parler, enfin du référendum. Il y a consacré peut-être, 5 minutes, même pas, en propos liminaire.
Il a les soldats,
les héros, souveraineté, exactement. Mais après, il est parti sur cette opposition frontale entre ces deux, entre ces nouveaux blocs.
Mais vraiment, je veux insister sur le fait
que
cette rupture avec le monde occidental, qui, en fait, c'est la réaction à lui. Ce que beaucoup de gens ne veulent pas admettre, parce que on est dans le cocotier de la morale, donc imprécation, tout est de la faute de Poutine. Moi, je veux bien, à la limite, c'est même pas mon sujet. Mais on ne comprend pas quelque chose. C'est que chez Poutine, cette récrimination contre l'Occident, c'est une vieille affaire. Ces discours-là, il a commencé à les prononcer, y compris devant les Occidentaux. La première fois qu'il a fait une diatribe de ce genre, c'était à Munich en 2007, à la conférence sur la sécurité, où il y avait tout le gratin de l'OTAN. Et il les a surpris, parce que personne n'avait vu venir la chose. Obama considérait que la Russie, le problème était réglé. C'était une puissance régionale, donc ça ne pesait plus. Le sujet, c'était la Chine, donc la Russie ne comptait pas. Mon vieil ami, qui est malheureusement décédé, John McCain, qui était candidat à la présidence suivante, disait, la Russie, mais c'est une énorme station-service avec des bombes atomiques. Autrement dit, c'est rien, quoi. C'est fini, la question est derrière nous. Pour la plupart de ces responsables de l'OTAN, de l'Occident, etc., les grandes questions, c'était ailleurs, c'était au Moyen-Orient, l'Afghanistan, je ne sais pas quoi, l'islam, la Chine.
C'est la chute de Berlin. Quand le mur de Berlin tombe, tout le monde se dit, on a vaincu le communisme.
Voilà.
Terminé. L'histoire est terminée.
C'est un pays défait. Et donc, ils ont une capacité de nuisance, on voulait bien admettre ça, mais c'est tout. Poutine, c'est un patriote nationaliste à la tête d'un pays qui est très patriotique. Et leur histoire, c'est la guerre patriotique, bien plus que le communisme. Donc, il joue sur ce réflexe. Et lui, je crois profondément, il y croit. C'est-à-dire, il ne supporte pas le fait d'être dirigé par des Américains qui, en plus, l'ignorent. Parce que, faut comprendre un truc, c'est que les sanctions, ça ne date pas d'hier matin. La Russie, elle est sous sanctions depuis, 20 ans. Et les sanctions, une fois qu'elles sont dans les livres du Congrès américain, vous ne pouvez plus les enlever. Vous ne pouvez plus, parce qu'il vous faut une majorité... notamment au Sénat, que vous n'obtiendrez jamais. Donc, Quand les Américains parlent de reset, par exemple, de redémarrer sur de bonnes bases avec les Américains, et il y a des endroits où ils pourraient négocier, par exemple, sur les armements nucléaires, il y a des zones où les deux parties pourraient redémarrer.
Il a raison, Harold, c'est inscrit dans le marbre, y compris pour tous les pays figurant dans l'axe du mal. Après, il faut revenir en arrière.
Donc, à la question, qu'est-ce que tu me donnes si je redémarre? Ouais. Si je redeviens, qu'est-ce que tu me donnes? Ben rien, puisque je suis bloqué par les sanctions. Et en plus des sanctions extraterritoriales, c'est-à-dire qui tapent sur les alliés. Donc un certain nombre de technologies, de choses diverses et variées. Et là, c'est très très compliqué, la suite des opérations. Comment on sort d'un régime où on a de facto, définitivement coupé les liens avec la Russie? C'est ça qui est tragique. Et ça le renforce dans l'idée que de toute façon, foutu pour foutu, la coupure avec l'Occident étant ce qu'elle est, moi je m'allie avec les Chinois et je fais un modèle alternatif à la décadence de l'Occident. C'est ça qui est en train de se jouer. Le changement de logiciel du monde qui était dominé par l'Occident et où la Russie faisait partie de cet Occident, même si elle avait cette capacité de nuisance comme junior partner, là, ils sont en train de passer du côté chinois. Et ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour nous.
C'est vrai que c'est intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce changement de politique, entre guillemets, se fait sans que Poutine ait pris le soin de construire un discours positif qui peut s'adresser au reste du monde. Puisque normalement, quand on incarne un changement, on parle à ses proches et on parle aussi à l'extérieur. Or là, en fait, à part la dialectique de l'ennemi, il ne propose pas un chemin extrêmement clair.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a pas d'idéologie.
Souverainiste.
Avant, il y avait une idéologie communiste. Oui, on l'exportait. Là, ça n'existe.
L'identité nationale, pas, oui. Le souverainisme, la résistance à la domination américaine.
La problématique, c'est que quand il s'agira justement de négocier, et un jour ou l'autre, il va falloir négocier. Quand il s'agira de négocier, il faudra aussi, à un certain moment, apporter des éléments de négociation qui disent, voilà, on a bloqué les sanctions, mais on va pouvoir aller dans telle direction, on va pouvoir améliorer la situation. Et ça, c'est des éléments de négociation.
Il nous reste 3 minutes pour s'interroger peut-être sur ce qui va se passer dans les jours prochains. Alors la réaction des Européens, on l'a eue, mais via un communiqué. La réaction des Américains, on l'attend encore. À l'ONU, bon, on sait à peu près ce que ça va donner. L'Ukraine...
La réaction de CNews, on vient de la voir.
Bah ouais, L'Ukraine demande une adhésion accélérée, c'est-à-dire en gros une intégration quasi immédiate au sein de l'OTAN. À quoi on peut s'attendre dans les prochains jours? Comment tout cela va finir? Parce que ça va continuer les combats sur le terrain, ça ne va pas s'arrêter à la faveur d'une signature. Et vous disiez, on va jouer finalement une sorte de temporisation sur cette histoire de frontières pas vraiment claire, c'est ça?
Oui, bien sûr. Et je pense même que cette lettre de Zelensky fait partie d'une espèce de stratagème. Parce que faire au nez et à la barbe des États-Unis une demande comme ça, sans les avoir consultés à l'avance, ce n'est pas très poli. Et j'ajoute que la constitution ukrainienne impose déjà l'adhésion à l'OTAN. Donc je pense que c'est une façon d'augmenter, améliorer ses cartes. Que de dire ça. Maintenant, les États-Unis pourront dire publiquement, bon, Zelensky redescend un peu et ça fera plaisir à Poutine, ça sera une petite ouverture. J'essaye d'extrapoler parce que cette lettre n'est pas tout à fait utile sur le plan pratique. Ce n'est pas ça qui va faire l'adhésion à l'OTAN et l'arrivée des chars polonais et autres.
Je suis pas sûr que ce soit la solution la plus sage pour Zelensky dans la phase actuelle, parce qu'il risque de se heurter à un refus qui ne va pas l'aider, mais...
Disons que, en partie, la naissance d'une nation s'est faite aussi autour de ce rêve d'adhésion à l'Occident et à la communauté européenne. C'est sa façon de prolonger le rêve des Ukrainiens. Et quand on est un dirigeant, surtout dans une situation aussi dure, on n'éteint aucun rêve. Donc je crois qu'il n'a pas tellement le choix, qu'il n'est pas dupe de sa propre démarche et qu'il va l'utiliser comme un levier. Et ensuite, ça peut être aussi une stratégie, c'est-à-dire laisser aussi à l'allié américain, comme vous disiez, le moyen peut-être de tempérer un peu la situation. Dans la guerre, on teste beaucoup de choses et puis certaines marchent, certaines ne fonctionnent pas.
On va réécouter un extrait de cette allocution de Vladimir Poutine. C'était il y a une heure et demie environ, à propos de l'Occident. L'Occident qui, selon lui, cherche à détruire la Russie, à l'éradiquer, en gros, de la face du monde. Écoutez.
L'Occident cherche à détruire la Russie. Un autre État qui chercherait un développement indépendant. Ils cherchent à piller la Russie pour combler leurs déficits. Et donc, ils cherchent à emmener notre système jusqu'à l'effondrement en utilisant peut-être aussi la solution de la guerre. Et la Russie comprend toute la responsabilité qu'elle a face à la communauté internationale et fera tout pour réagir face à cela.
Qu'est-ce qu'il cherche à travers ces mots, Harold Diman ? Il veut réveiller l'esprit russe pour rassembler les combattants derrière lui ?
Ben, si c'est pour rassembler les conscrits dont un certain nombre, une grande proportion, c'est réfugiés en Finlande, en Géorgie, en Arménie et au Kazakhstan, c'est pas vraiment très réussi comme langage. Ils vont pas faire demi-tour. Ah oui, d'accord, si on fait pas ça, on va piller pour rembourser le déficit des Occidentaux. Donc, sinon, c'est assez fantasque parce qu'il inverse la période où on pillait la Russie, entre guillemets, c'était les années 90. Il a mis fin à ça il y a 20 ans. Ça fait 20 ans que ça n'existe plus. Et il parle comme si on était en 95, sans arrêt. Vous nous avez pillé des contrats gaziers en Sakhaline qui étaient complètement disproportionnés. Et lui, Poutine, les a rétablis dans leur justesse. Mais c'est fini, c'est derrière nous. Donc il ressort son vieux programme et ses vieilles gloires. Et il essaye de vendre ça. Mais bon, dans la salle, vous avez quand même vu un ennui absolument sidérant sur les visages.
Il n'y avait pas les oligarques qui ont pillé la Russie.
C'est assez intelligent parce que quelles sont les représentations aujourd'hui des alliés de Poutine ? Que vous alliez les chercher en Afrique, que vous les preniez en Asie ou que vous puissiez les prendre dans ce qui déstabilise aujourd'hui les Occidentaux. C'est ce discours-là qui est tenu, ce discours sur « nos richesses sont pillées », alors qui parle les Blancs, qui parle l'Occident, etc. Oui. C'est aujourd'hui un discours qui est devenu un discours commun. Oui. C'est un discours qui permet aux individus, comme à certaines nations, de se poser en victime de toute éternité.
La victimisation existe partout, hein.
Mais tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que ce discours-là, il entre en phase avec des discours qui sont des discours tenus par des États. Vous prenez l'Algérie et dans un discours de victimisation permanent qui permet de réhabiliter le pouvoir aux yeux de sa population. En Afrique, vous avez aussi ce discours techniques qui est tenu.
Jean-Michel Fauvergue, puis Pierre Lelouch.
Ces discours de victimisation, ce sont des techniques, évidemment, pour se rassembler, pour s'unir, et pour emmener les gens avec vous dans une direction qu'ils ne désirent pas au départ. Ce même discours de victimisation, vous l'avez dit, on l'a dans des pays comme l'Algérie, on l'a aussi, ce discours de victimisation, on l'a en plein dans les jeunes qui se consacrent à l'islam politique, les islamistes, on l'a partout. C'est une technique vieille comme le monde, c'est de dire tout le monde est contre moi, tout le monde m'attaque, ils veulent me piller, donc je réagis frontalement, quoi.
Mais Pierre, il y a quand même cette idée chez lui d'un déclassement de la Russie, c'est-à-dire d'avoir été pris de haut, pas pris au sérieux des années déjà. Au-delà de l'économie.
Non, mais c'est pour ça que je dis son discours est ancien. C'est une réaction à l'humiliation. L'humiliation qui lui a été infligée. Je sais, c'est le mot qu'a utilisé le président de la République, à juste titre. Ça lui a été beaucoup reproché. Mais moi, je connais bien les Russes. Je sais qu'ils sont patriotes. Je sais que ce sont... Voilà, ils ont très mal vécu le déclassement et la façon dont ils ont été traités. Après, ça autorise Poutine à dire des énormités. Parce que l'histoire du pillage de la Russie, ceux qui ont pillé la Russie sont des Russes. Hein, le pillage, il a été fait par les oligarques qui ont fait du véritable... Ce qu'on appelait au moment de la révolution, vous savez, de la fin de la guerre civile américaine, le carpet bagging, c'est quand on va voler les ressources, on se sert sur la bête, on se paye sur la bête, mais toutes ces fortunes qui entourent le président russe, qui sont son soutien, qui lui donnent les avions, les dachas et le reste, c'est qui ? C'est des gens qui ont vendu le gaz, qui ont mis la main sur l'aluminium, qui ont fait des deals ensuite avec l'Occident. On ne peut pas dire que ce soit... C'est pas Total qui a été pillé, au contraire. Hein. Eux, ils sont partenaires avec l'État russe. C'est pas les grandes entreprises occidentales, pas du tout. Ce sont ceux qui ont pris la main sur l'économie russe qui ont pillé la Russie. Et ça, c'est un discours qui vise aussi à exonérer son régime de toutes ses turpitudes. Et franchement, c'est autant je peux comprendre la partie humiliation parce que je crois que c'est profond et c'est vrai. Autant là, on est en train d'effacer toutes les turpitudes du régime.
Alors, il nous reste les 2-3 minutes. Donc, on va s'appuyer sur cette image. C'est une nouvelle image qui nous parvient. Vous le voyez bien. C'est la tombée de la nuit à Moscou. Et il y a donc sur la place Rouge ces groupes de musique qui se succèdent sur scène. Voilà une image quand même assez saisissante devant le Kremlin. Toute la grandeur convoquée par Vladimir Poutine est là avant son deuxième discours de la journée, puisque le premier, il était consacré à la signature et au fait d'entériner le référendum qui permettait d'annexer quatre régions du sud et de l'est de l'Ukraine. Et là, maintenant, il va s'adresser au peuple russe pour continuer de justifier son action. Et puis, on verra si le discours est de la même teneur, s'il utilise les mêmes arguments, s'il s'en prend à nouveau à l'Occident devant une place comble, ou si, au contraire, il veut justifier l'action militaire en Ukraine.
Non, mais Nelly, c'est drôlement décadent quand même, cette occidentale. Vous avez vu comment il se déhanche, là ? C'est pas franchement russe, hein. Là, c'est
le modèle occidental décadent. Ça a l'air d'être un peu de la pop-rock, ce qui est quand même
on est plutôt dans le...
assez anglo-saxon.
Ouais. On est dans le modèle ONI de la décrépitude.
Et puis, au même moment, puisqu'on va, bientôt c'est se quitter drôle. Et laisser Patrice Boisfert reprendre le flambeau dans Punchline, et vous entendrez bien sûr des extraits de ce que dit Vladimir Poutine sur la place Rouge, désormais 2 heures après son premier discours, d'environ 1 heure. Volodymyr Zelensky, entre-temps, a demandé l'adhésion accélérée de son pays à l'OTAN. On l'a vu lui aussi dans un exercice très différent, comme il en a l'habitude, avec son t-shirt militaire, ses gardes du corps... dans une rue.
Pas des gardes du corps, c'était le Premier ministre et le président de la Douma.
D'accord, enfin c'était des baraques.
C'est vrai que ça ressemble à des gardes du corps.
Il ressemblait à des gardes du corps, pardon, je ne les ai pas identifiés comme vous, cher Harold. Et donc voilà, et lui il était dans la rue, ça montrait le chef de guerre. Il y avait vraiment quelque chose qui tranchait dans la mise en scène de ces deux hommes.
Oui, il y a eu deux mises en scène, encore une fois. Il y a eu deux mises en scène vraiment particulières. L'une du côté de Poutine, le chef qui est là et qui surplombe tout le monde. Et Zelensky, une mise en scène plus guerrière avec, non pas ses deux gardes du corps, mais ses ministres pour signer le...
Qui sont aussi ses gardes du corps.
Qui peuvent être aussi à la limite.
Là, ils étaient quand même en forme de protection, on le voyait bien. Ils l'entouraient de manière non équivoque. Pour parer à toute éventualité. Bon, on va...
Pardonnez Nelly.
Ça nous arrive en 2 heures de dire des bêtises. Il faut bien. Merci beaucoup.
Non, mais je vous rassure, moi, j'étais pareil que vous.
Vous les avez reconnus, vous ?
Non, pas du tout. Bon, donc, voilà.
On a ressenti. Le
seul Harold qui passe ses journées sur les réseaux sociaux les avait identifiés formellement.
C'est le modèle normal, là-bas. Ce sont des gens costauds.
Alors, c'est lui qui est un peu plus petit que la moyenne.
D'accord. Oui, mais lui, il est russe.
On va pas entamer ce nouveau débat.
On va pas s'en sortir.
Merci. Merci à tous les quatre. Dans quelques instants, vous suivrez ce nouveau discours de Vladimir Poutine devant une foule cette fois et pas devant un parterre de dignitaires du régime et autres parlementaires. Et dans un instant, voilà, c'est Yoann Uzaï qui va reprendre l'antenne. Voilà. Ah bah Yoann qui est déjà là. Voilà. Yoann, je vous laisse. Punchline, c'est à vous.
Bonjour Nelly, bonjour. Merci, effectivement, on va poursuivre.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.